l'été, entre midi et midi 30, France Culture vous propose des portraits de penseurs et d'intellectuels des États-Unis dont les idées nourrissent encore nos débats d'aujourd'hui. C'est ainsi que dans les semaines qui viennent, Toni Morrison, John Rawls ou encore Ayn Rand prendront la place de l'inconnue célèbre qu'est Rachel Carson, autrice du Printemps silencieux, un des livres fondateurs de l'écologie moderne. Hier, son éditeur français Baptiste Lanaspez nous a présenté celle qui, avant Silent Spring, s'était fait connaître pour une série à succès sur l'univers marin. Et il nous a expliqué également que c'est en une petite décennie, dans les années 1950, que cette admiratrice des merveilles de la nature était devenue une écologiste. Mais quelle place prend-elle dans le débat environnemental aux États-Unis? C'est ce que nous explique aujourd'hui l'historienne Elsa Devienne, maîtresse de conférences à l'université Northumbria de Newcastle.
L'homme a découvert un certain nombre d'armes chimiques. Et ces armes incontestablement présentent certains aspects bénéfiques. Elles ont permis de lutter contre certaines maladies, contre la malaria par exemple, pour ne citer que celle-là. Elles ont permis également d'empêcher des insectes, des prédateurs de culture, de ravager celles-ci et de diminuer par conséquent les rendements au moment où l'humanité précisément a besoin d'une plus grande quantité de nourriture. Mais l'homme, une fois de plus, a abusé de ce moyen. Au lieu d'utiliser simplement comme un outil proportionné aux besoins, il a fait le contraire, il a estimé que c'était une panacée, il l'a répandue partout et à l'heure actuelle, nous assistons dans bien des points du globe.
Et en France en particulier.
En France en particulier, aux États-Unis également, dans tous les pays et même dans les pays qualifiés de sous-développés, en Afrique par exemple, nous assistons à un empoisonnement véritable dont nous ne pouvons pas encore à l'heure actuelle mesurer les conséquences.
Bien évidemment, ce n'est pas la voix de Rachel Carson qui ouvre cette émission qui lui est consacrée, mais celle de Jean Dorst, un ornithologue des années 1950-1960, qui, à ce moment-là, alertait en France, tandis que Rachel Carson le faisait, aux États-Unis, sur la disparition des espèces animales et en particulier des oiseaux de nos paysages. Bonjour à vous, Elsa Devienne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous depuis Manchester, où vous vivez. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Northumbria de Newcastle et vous y travaillez sur l'histoire environnementale. Vous êtes d'ailleurs autrice d'un livre qu'il faut citer car c'est un grand livre, La ruée vers le sable, une histoire environnementale des plages de Los Angeles au XXe siècle. Vous allez nous expliquer quelle est la place que prend Rachel Carson dans cette longue histoire environnementale, parce qu'on peut dire d'une certaine façon peut-être que les États-Unis sont un des lieux de naissance de cette question environnementale, en particulier au XIXe siècle, avec à la fois les grandes conquêtes qui sont faites vers l'ouest par les pionniers américains qui détruisent des paysages et en même temps la volonté de préserver ces paysages et cette nature considérée comme donnée par Dieu.
Les États-Unis peuvent en effet se prévaloir d'être un pays qui a bien des égards pionniers en ce qui concerne la protection de la nature. C'est un pays aussi où il y a eu de grands penseurs de la nature dès le 19e siècle en rapport avec ce dont vous parliez à l'instant, c'est-à-dire cette passion pour la nature sauvage, inhabitée, cette nature qui au 19e siècle est justement en train de disparaître sous les effets de la conquête de l'Ouest. Et donc au 19e siècle aux États-Unis, on va avoir les premières politiques de la nature. Donc, encore une fois, pionnier à cet égard, puisque le premier parc national au monde est fondé aux États-Unis en 1872, c'est Yellowstone, même si on peut considérer qu'en réalité, c'est Yosemite, le premier parc public. Donc, le Congrès en vote la protection en 1864 et deviendra plus tard parc national à son tour en 1890. Par ailleurs, il y a ce mouvement au 19e siècle dans l'Ouest, mais même dans les villes, il y a tout un réformisme autour de l'environnement urbain, d'améliorer l'environnement des villes pour les habitants, pour les ouvriers, avec la création du parc de Central Park, par exemple, mais aussi de plein d'autres parcs à ce moment-là, dans une idée de créer des poumons pour la ville. Donc on a un certain nombre de politiques de la nature vraiment pionnières qui vont ensuite influencer les Européens.
Avec des personnages comme celui qu'on appelle John Muir en France, mais que les Américains appellent eux-mêmes John Moore, qui est un personnage essentiel dans cette vision justement d'une nature à préserver, à mettre, on pourrait presque dire, sous cloche, tandis que les activités humaines se poursuivent aux alentours.
Oui, John Muir est vraiment la figure classiquement associée à ce qu'on appelle le préservationnisme aux États-Unis, ce qui est une des grandes branches intellectuelles de l'écologie politique contemporaine. Le préservationnisme, c'est l'idée de préserver la nature sauvage, inhabitée, parce que c'est le lieu où on rencontre Dieu, c'est le lieu d'une beauté incroyable, c'est un lieu de spiritualité, et un lieu où on doit préserver la nature en soi, non pas pour sa valeur utilitaire. Et donc, en général, on oppose John Muir à Gifford Pinchot, qui lui est un grand pionnier de la foresterie, de la préservation des forêts, mais dans une perspective beaucoup plus utilitariste, puisque lui, c'est l'idée d'une gestion raisonnée des ressources naturelles, de manière à pouvoir à continuer les exploiter. Et donc, au XIXe siècle, on a ces deux figures, ces deux mouvances qui s'opposent quant à la manière dont on doit procéder pour protéger cette nature, et souvent, eh bien, ce sont les utilitaristes qui le remportent. Et en ce sens, Carson est peut-être plus une héritière des préservationnistes, puisque elle voit vraiment la nature comme devant être préservée en soi, parce que en soi, ces habitants des océans qu'elle aime tant doivent être préservés, protégés, étudiés et aimés. Mais elle est très différente de ce 19e siècle, et on va en parler.
Alors justement, parce qu'il ne faudrait pas prendre effectivement la place de Rachel Carson, dont il faut rappeler pour nos auditeurs qu'elle a agi essentiellement après la Seconde Guerre mondiale avec des livres à grand succès, l'un sur la mer qui s'appelait La mer autour de nous, qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires, et puis l'autre évidemment qui nous intéresse particulièrement, qui s'appelle Printemps silencieux, et dont on parlera beaucoup pendant toute cette semaine, qui est une sorte de manifeste contre l'usage des produits chimiques dans la nature aux États-Unis, un énorme dossier travaillé pendant plusieurs années pour pouvoir devenir une sorte de bombe qui va créer l'écologie aux États-Unis. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit. Mais effectivement, entre ce que vous nous racontez de cette vision d'une nature protégée par Dieu au 19e siècle telle qu'elle a été défendue par les préservationnistes, et puis Rachel Carson, il y a presque un siècle d'écart, et évidemment, des événements politiques vont se dérouler qui vont peut-être chambouler justement cette vision d'origine de la préservation de la nature, Elsa de Vienne.
Alors, selon le récit consacré, si vous allez dans n'importe quelle salle d'histoire, salle de classe où on enseigne l'histoire de l'environnement, l'histoire de l'environnementalisme aux États-Unis, on va vous parler de Rachel Carson et de son Printemps silencieux comme de cet ouvrage et de cette personne qui font charnière. Et Rachel Carson est vraiment présentée comme l'accoucheuse du mouvement écologiste contemporain aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que elle popularise cette vision écologiste de la nature. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là qu'elle va vulgariser les nouvelles découvertes de la science de l'écologie. Cette idée selon laquelle l'homme n'est pas séparé de la nature, l'homme n'est pas distinct, il n'est pas surplombant, maîtrisant la nature, mais il en fait partie. Il est un être vivant comme les autres, et en ce sens, il est interdépendant, interconnecté. Donc, Rachel Carson, c'est vrai qu'elle a un rôle important de ce point de vue-là, mais en fait, son livre est un des multiples livres qui sont publiés à cette époque et qui contribuent à vulgariser cette idée de l'écologie. Mais ce qui est intéressant avec le fait qu'elle est devenue cette figure incontournable du mouvement écologiste moderne, c'est vrai qu'elle est pratique, en fait, Rachel Carson. Elle permet vraiment d'identifier ce moment où on passe d'un mouvement d'élite blanche du 19e siècle, donc fondée sur cette idée de l'homme distinct de la nature, l'homme qui regarde la nature, à ce mouvement après les années 60, après la Seconde Guerre mondiale, qui est un mouvement, lui, de masse, plutôt de gens ordinaires, de toutes les classes sociales, d'une grande diversité raciale et ethnique, et avec beaucoup de femmes, qui, eux, vont se préoccuper non pas de la nature sauvage de l'Ouest, mais de la nature dans nos jardins, de la nature des lotissements résidentiels, de la nature proche quotidienne.
Parce qu'il faut bien dire effectivement que les États-Unis ont beaucoup changé entre la période de la conquête de l'Ouest à la fin du 19e siècle, dans la deuxième moitié du 19e siècle, et cette période de la Seconde Guerre mondiale, et en particulier qu'il y a eu un grand moment qui peut-être peut expliquer ces changements de pied, pourrait-on dire, de ce préservationnisme. C'est la grande crise des années 30 qui a évidemment mis sous les yeux des Américains et des Américaines les plus modestes les difficulté de vivre dans une société dont la nature était abîmée.
Alors vous faites sans doute référence au Dust Bowl des années 30, qui est une la première grande catastrophe environnementale aux États-Unis.
C'est une grande sécheresse.
Voilà, c'est une série de sécheresses qui se déroule dans une région qui est la région des Grandes Plaines, donc l'Oklahoma, le Kansas,
le Texas, cette
grande région entre les deux côtes qui connaît une série de d'années de sécheresse et qui va engendrer ensuite des tempêtes de poussière qui vont complètement détruire les récoltes de ces de familles d'agriculteurs entiers qui vont ensuite, on le sait puisqu'on a tous en image John Steinbeck, les raisins de la colère. Mm-hmm. Donc c'est Hokies qui vont ensuite prendre la route vers la Californie pour essayer de survivre, tout simplement parce qu'ils ont tout perdu. Or, donc, on est au moment de la Grande Dépression. Roosevelt arrive ensuite avec son New Deal et il va proposer de l'aide à ses fermiers. Mais en réalité, le New Deal ne va rien changer véritablement. C'est-à-dire que on va bien comprendre que c'est le surlabourage de terres fragiles avec une monoculture céréalière qui a détruit ces terres, qui a engendré ces tempêtes de poussière mortelles dans certains cas. Mais le New Deal, on est encore dans cette idée que finalement la technologie a engendré le problème, mais c'est toujours la technologie qui va résoudre le problème. Mmh. Et donc, si on va mettre quelques terres en inculture, on va essayer de réfléchir à de nouvelles manières un petit peu, mais globalement, on va pas remettre en question fondamentalement la mécanisation et la productivité à tout prix de ces terres qui vont d'ailleurs de toute manière, pour la plupart, être remises en cultivation après la fin de la sécheresse.
Et je vous propose d'écouter justement un extrait du Printemps silencieux sur, disons, l'outrage que l'homme fait à la nature. C'est donc un texte de Rachel Carson, publié en 1962 aux États-Unis.
Il a fallu des centaines de millions d'années pour produire la vie qui peuple maintenant la Terre. Des siècles et des siècles pour permettre aux animaux et aux végétaux qui se développaient, évoluaient, se diversifiaient, d'atteindre un état d'harmonieux équilibre avec leur entourage. La rapidité actuelle des changements, la vitesse à laquelle se créent des situations nouvelles, correspondent plus au pas de l'homme, impétueux et irréfléchi, qu'à l'allure pondérée de la nature.
Elsa de Vienne, dans ce texte, effectivement, on voit bien la trace de ce que vous racontiez, le préservationnisme, cette idée que, ça n'est pas Dieu, mais en tout cas, cette nature s'est créée sur des millions d'années, elle a été harmonieuse, nous explique Rachel Carson, et puis en très peu de temps, cet homme impétueux et irréfléchi vient y mettre le trouble.
Oui, c'est un peu le message de Rachel Carson, c'est de remettre en question cette arrogance de l'homme qui est caractéristique de l'après-Seconde Guerre mondiale. Pour Rachel Carson et pour beaucoup de ses contemporains, le choc, c'est celui d'Hiroshima et de Nagasaki, de la bombe atomique. Il faut vraiment se remettre dans le contexte des années 50 et 60 et de la guerre froide. Et les Américains entendent parler de retombées radioactives, de pluie acide, et ils se rendent compte que pour la première fois, il y a vraiment cette idée que la nature n'est plus intouchable. Et en particulier pour Rachel Carson, qui est cette grande amoureuse des océans, les océans, les mers, cet espace qu'on croyait vraiment à l'abri en fait de l'homme et de ses même cet espace-là est en train de changer, est en train de se transformer. Et elle observe des phénomènes qui sont liés, en fait, on le saura par la suite, au réchauffement des océans. Et elle se rend compte qu'effectivement, c'est fini cette nature intouchable et qu'il faut vraiment remettre en question cette attitude d'arrogance.
Et il faut dire effectivement que pour résoudre les crises, en particulier les crises agricoles dont vous parliez tout à l'heure, le Dust Bowl ou d'autres, eh bien, l'industrie chimique est venue à l'aide des agriculteurs. Enfin, en tout cas, c'était comme ça que c'était présenté à l'époque, en inventant tout un tas d'engrais chimiques en particulier que l'on pouvait donc introduire dans les cultures et qui permettaient d'avoir de meilleurs rendements. Et on voit bien effectivement que toutes ces questions, à la fois des engrais chimiques et des pesticides qui les accompagnent pour tuer les parasites, comme on les appelle aussi à ce moment-là, eh bien, ça fait partie d'une sorte de paquet voulu par l'industrie, mais également par les gouvernements ou les gouverneurs de chacun des États pour pouvoir aider l'agriculture à passer le pas.
Effectivement, dans l'après-Seconde Guerre mondiale, après, ce qui est intéressant par rapport à Carson et le DDT en particulier, faut vraiment parler ici du DDT qui est quand même le pesticide dont elle parle le plus essentiellement hein, dans son ouvrage. C'est justement un pesticide qui est découvert juste avant la guerre, enfin dont les propriétés plutôt insecticides sont découvertes juste avant la guerre en 1939 et qui va faire ses preuves sur le front du Pacifique pour lutter contre la malaria, le typhus et on va débarrasser Naples en 1943 du typhus grâce au DDT. Et donc dans la Seconde Guerre mondiale, va y avoir cet effet de transfert d'une utilisation dans un contexte militaire à une utilisation dans un contexte civil, où le DDT va devenir un produit de consommation courante qu'on va voir dans tous les supermarchés sous forme de bombes à aérosol. Et là, c'est évidemment lié à ces rapports très étroits qu'entretiennent les industries chimiques, Dupont-Nemours, Monsanto, Dow, etc., avec l'État américain qui va avoir ces grandes largesses et des crédits envoyés à toutes ces industries chimiques.
Et il faut dire aussi que effectivement c'est ce lien entre recherche militaire qui se transfère ensuite dans le domaine civil assez rapidement avec des transferts de savoir-faire très rapides qu'on a connus aussi avec l'agent Orange, le Napalm ou d'autres à d'autres moments de l'histoire des guerres et des États-Unis. Elles adviennent donc on voit bien effectivement que ce complexe qu'on a appelé plus tard le complexe militaro-industriel est un complexe qui fonctionne à plein et c'est d'ailleurs ce que décrit assez bien Rachel Carson dans son Printemps silencieux. C'est-à-dire comment, il y a des représentants de commerce qui arrivent auprès de telle ou telle population américaine pour dire vous avez des fourmis, on va débarrasser les fourmis, vous avez tel ou tel parasite, tel ou tel insecte, un scarabée qui s'est introduit dans votre territoire, on va vous débarrasser du scarabée en question, mais en même temps, dit-elle, on se débarrasse de bien d'autres espèces.
Oui, ce qu'elle remet en question finalement, ce n'est pas le pesticide en soi dans toutes les situations, puisqu'elle s'en rend bien compte que dans certains cas, en particulier dans le cas de la malaria, il est important d'utiliser les pesticides. Le problème, c'est cette campagne publicitaire qui est lancée à tout crin, où l'idée c'est plus on met du pesticide, mieux c'est. Et vraiment, c'est cet usage irraisonné et complètement aveugle des pesticides à toutes les doses et sans réfléchir qu'elle remet en question.
Et donc, il y a ce moment un peu particulier de la fin des années 50, dans les années 50 et la fin des années 50, pendant lesquelles, effectivement, tout le monde réfléchit à que faire pour pouvoir améliorer les rendements, pour pouvoir, effectivement, se débarrasser de tel ou tel insecte ou de tel ou tel nuisible. Et puis, elle, tranquillement, dans sa thébaïde, parce que, comme nous l'a expliqué hier Baptiste Lanaspez, elle a gagné suffisamment d'argent pour se retirer de son propre travail, elle compulse des rapports, elle compulse des productions scientifiques qui lui disent que dans l'Illinois, dans le Montana, dans tel endroit, etc., il y a des crimes environnementaux qui sont en train de se commettre et de détruire la vie dans ces régions.
Oui, dès les années 1940, en fait, juste après la guerre, Rachel Carson, dans le contexte de son travail, est au courant des effets délétères du DDT, puisqu'il y a déjà des tests qui sont faits par le gouvernement américain. Et elle propose d'ailleurs, dès 1947, un article sur cette question au Reader's Digest, qui est un grand magazine américain, qui lui dit non, puisqu'à l'époque, effectivement, on est vraiment dans cet esprit d'enthousiasme technologique pour le DDT. Et puis, dans les années 50, elle commence à construire, à monter son dossier. Et ce qui va vraiment la motiver pour écrire ce livre, c'est le fait qu'elle reçoit des lettres de personnes qui observent les effets du DDT sur leur environnement quotidien. Mmh. Et en particulier, elle va être très intéressée par un procès qui est en cours à partir de 1957 à Long Island, à côté de New York. Donc, il y a un ensemble de propriétaires de terrain qui refusent absolument l'épandage de leur terrain et de leur maison de DDT. Et ce qui montre d'ailleurs que Carson n'est pas du tout la seule, hein, c'est pas du tout la voix isolée que parfois on décrit, mais c'est celle qui va entendre et comprendre que là, il y a quelque chose. Il faut absolument que les Américains prennent conscience des dangers de ces pesticides et qui a l'aura, la renommée, effectivement, après trois ouvrages salués sur l'océan, pour se faire entendre.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous nous dites, elle n'est pas la seule. Pourtant, effectivement, on voit bien comment se construisent les figures de héros dans nos sociétés contemporaines. Il faut trouver effectivement un personnage qui peut-être synthétise les qualités d'autres personnages et dont on se dit, eh bien, elle était ou il était pionnier ou pionnière dans sa discipline. Ce qui est intéressant, c'est que le travail historique, et vous êtes historienne, Elsa de Vienne, montre qu'effectivement, il y a eu d'autres lanceurs d'alerte, pourrait-on dire, à la même époque, d'autres personnes qui ont commencé à tenter de se faire entendre sur cette question de l'usage des biocides, comme disait Rachel Carson. Par exemple, il y en a un qui était anarchiste, Murray Bookchin, par exemple, qui publie exactement en même temps qu'elle, effectivement, un livre sur la question des usages des pesticides et qui reste dans un petit milieu très, comment dire, très vénéré encore aujourd'hui, Murray Bookchin, mais effectivement, il n'a pas l'impact qu'a pu avoir Rachel Carson, qui a publié exactement à la même période que lui, Le Printemps silencieux.
Oui, et d'ailleurs, son ouvrage, Our Synthetic Environment, notre environnement synthétique, est même publié quelques mois avant Printemps silencieux. Mmh. Et pourtant, effectivement, le problème, c'est que quelqu'un comme Bookchin, il est syndicaliste, anarchiste, et donc il est associé à cette gauche radicale, et donc il n'a pas du tout l'aura, la renommée et le lectorat de quelqu'un comme Rachel Carson, qui n'est pas du tout un personnage politique, politisé, c'est pas du tout quelqu'un... C'est marrant, parce que maintenant, on l'associe à ce mouvement écologiste contemporain, mais c'est quelqu'un...
Avec même l'idée de l'écologie profonde, qui, est très, effectivement, une écologie très politique, et en fait, ça n'est pas le personnage que l'on peut rencontrer dans les archives. Rachel Carson n'est pas comme ça, en tout cas. Elle est beaucoup plus calme qu'une passionnariat de l'écologie profonde qu'on décrit aujourd'hui. Non.
Tout à fait, et c'est ça qui est plaisant et qui attire, je crois, dans son profil, c'est le fait que c'est finalement une petite dame assez assez réservée, mais qui va écrire son livre, qui est très connu à l'époque, mais qui va écrire son livre et qui va avoir elle va avoir un grand succès. C'est aussi pour ça, je pense, que Rachel Carson est cette figure incontournable, c'est parce que son histoire, c'est une histoire d'un grand succès. Elle écrit son livre en 1962, et ce qu'on retient, c'est que 10 ans plus tard, le DDT est interdit aux États-Unis en usage domestique. Mais en fait, ce qui explique aussi qu'elle plaise aujourd'hui, c'est parce que c'est une figure relativement apolitique. Elle est ni de gauche ni de droite, et d'ailleurs, elle ne dit jamais, on ne sait pas si elle est républicaine ou démocrate. Elle est relativement, on dit que son livre est révolutionnaire, mais en réalité, elle est assez consensuelle, c'est une femme sans histoire, enfin, c'est pas une femme qui s'est enchaînée aux arbres, quoi.
Non, elle est consensuelle, certes, mais néanmoins, elle a des ennuis avec les firmes, effectivement, chimiques, qui lui font procès public, d'une certaine façon. Donc, elle n'est pas si consensuelle que ça, parce qu'effectivement, elle s'attaque à des intérêts majeurs, qui sont des intérêts importants, au point de vue capitalistique en particulier.
Alors, les industries chimiques vont essayer à tout prix de casser son image, casser sa réputation. Ils vont chercher la petite bête. Ils vont essayer de trouver des erreurs dans son livre, mais ils ne vont pas y arriver parce que Carson savait très bien et son éditeur savait très bien américain que son éditeur américain savait très bien qu'il fallait absolument être irréprochable.
C'est Houghton Mifflin qui l'édite, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Et ils vont. Alors là, tous les faits, tout ce qui est rapporté, toutes les statistiques sont vérifiées plusieurs fois. Donc ils vont pas réussir à trouver la moindre petite bête. Mais d'ailleurs, c'est pas seulement les industries chimiques, puisque même le FBI va ouvrir un dossier sur Rachel Carson pour en particulier essayer de chercher si elle n'aurait pas des amitiés avec des étrangers. Alors évidemment, là, ce qu'on cherche, ce serait une connexion avec l'Union soviétique. Bien puisqu'à sûr. L'époque, dans tous les domaines, que ce soit le domaine...
On est en pleine guerre froide, il faut le rappeler.
Voilà, donc c'est ça, on est dans le domaine de la guerre froide, et la manière la plus simple
discréditer.
Discredit, voilà, je cherche le mot en français. C'est d'accuser quelqu'un d'être l'agent soviétique qui fait partie d'un complot pour voilà.
Il faut tout de même dire que effectivement entre le moment où le DDT sera interdit et 1962 parution aux États-Unis du Printemps silencieux, il y a une petite dizaine d'années que Carson va elle-même mourir d'un cancer en 1964 et que il y a d'autres mouvements qui vont pousser effectivement à ce mouvement écologiste, à la création d'une agence de l'environnement qui sera créée en 1970 aux États-Unis. Il y a d'autres événements, il y a pas simplement le livre de Carson, et c'est intéressant effectivement de montrer avec vous, Elsa de Vienne, brièvement, qu'il y a une multiplicité de faits qui vont finir par donner raison à Rachel Carson après sa mort.
Oui, c'est-à-dire qu'on retient Carson comme mère du mouvement écologiste américain. Mais en réalité, c'est comme tout bon historien, je vais vous dire que c'est un ensemble de facteurs et d'acteurs qui sont à l'origine de cette explosion. Et on peut citer son livre, mais en fait, il y a une dizaine, on va dire, de grands livres vulgarisateurs qui sortent à cette époque. Il y a le livre de Ralph Nader, le grand écologiste américain. Voilà, toute une série de livres. On redécouvre Aldo Leopold aussi dans cette période, l'écologiste américain.
Et puis, il y a aussi des catastrophes écologiques qui se déroulent.
Oui, effectivement, il y a l'explosion de la plateforme pétrolière à Santa Barbara en 1969, donc première marée noire télévisée, c'est-à-dire que à travers les États-Unis, on voit ces images de mouettes mazoutées qui choquent les Américains. Et juste après, donc un an après l'explosion de cette plateforme pétrolière en 1970, le sénateur du Wisconsin Gaylord Nelson, qui est un grand fan de Carson d'ailleurs, et qui veut finalement pas célébrer, mais du moins marqué les un an de cette marée noire, propose d'organiser un grand teach-in, selon les méthodes de la lutte contre la guerre du Vietnam, et veut organiser ce qui va s'appeler ensuite le Earth Day, le premier Earth Day, donc jour de la Terre. Il organise ça le 22 avril 1970, et je pense que c'est important, on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, mais c'est la plus grande mobilisation, plus grande manifestation aux États-Unis jusqu'à ce jour. 20 millions de personnes se déplacent le 22 avril 1970 pour protester contre la pollution et pour demander des lois pour protéger la nature.
Elsa Devienne, nous arrivons au terme de cette deuxième émission consacrée à Rachel Carson dans cette série Avoir raison avec. Et il faudrait peut-être dire un tout petit mot sur le projet qu'avait Rachel Carson de travailler sur un sujet qui nous intéresse énormément aujourd'hui, mais brièvement, et qui aurait peut-être pu changer, là aussi, comme pour son livre Le Printemps silencieux, quelques données sur l'environnement.
Oui, effectivement, elle avait pour projet d'écrire un livre sur ce qu'elle observait, c'est-à-dire la montée des températures des océans et le fait que certaines espèces animales qui jusqu'à présent restaient dans des eaux tempérées migraient de plus en plus vers le nord, vers des eaux qui se réchauffaient, puisque donc les océans sont un des grands aspirateurs du réchauffement climatique. Et à ce moment-là, les scientifiques commencent tout juste à développer, à publier leurs premières recherche, c'est dans les années 40, 50, et dans les années 60, voilà, elle avait cette idée d'écrire un ouvrage sur le lien peut-être entre les émissions carbone des hommes et ce réchauffement, et qu'est-ce que c'était en train de faire à l'océan et aux espèces animales de l'océan. Et évidemment, ce qui est tragique dans cette histoire, c'est qu'une femme comme Rachel Carson, qui avait cette autorité, cette renommée, voilà, le fait qu'elle était si apolitique, cette aura, si elle avait écrit ce livre, si elle avait porté à la conscience des États-Unis le réchauffement planétaire, eh bien, est-ce qu'on en serait aujourd'hui où nous en sommes?
Voilà.
Bien,
ça s'appelle de l'histoire contrefactuelle. Ça s'appelle de l'histoire contrefactuelle et nous ne pouvons pas le dire effectivement avec vous. Elsa Devienne, merci beaucoup d'avoir participé à ce deuxième volet de notre série Avoir raison avec Rachel Carson. Je rappelle que vous êtes donc maîtresse de conférences à l'université Northumbria à Newcastle et que vous êtes autrice en France de La ruée vers le sable. Une histoire environnementale des plages de Los Angeles au XXe siècle, une formidable façon de comprendre à la fois l'histoire urbaine et l'histoire environnementale sur un exemple. Los Angeles, merci encore à vous. C'était Avoir raison avec Rachel Carson.
Merci beaucoup.
Nos remerciements au Centre de Modulation de Radio France qui nous a mis en contact avec justement Elsa Devienne du côté de Newcastle et de Manchester. À la technique aujourd'hui, Jérémy Kaufmann, recherche musicale François Merlin à la discothèque de Radio France. La réalisation et la lecture des textes étaient assurés par Asia Ralid. Et demain, eh bien, nous continuerons à nous intéresser à la personnalité de Rachel Carson avec la seule lauréate du prix Rachel Carson en France. Elle s'appelle Marie-Monique Robin, vous la connaissez évidemment pour Le Monde selon Monsanto.